Monseigneur Le Gall, vous êtes archevêque de Toulouse depuis 16 ans. Il est temps pour nous de vous dire au revoir, mais d'abord nous vous saluons. Bienvenue à Radio Présence.
Bonjour Isabelle.
Vous arrivez au terme de votre mission épiscopale et c'est votre successeur, Monseigneur Guy Kerimel, qui a été nommé par le pape François et qui va donc être installé le 30 janvier prochain. Vous avez célébré le 9 janvier dernier une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Pourquoi souhaitiez-vous rendre grâce en particulier ?
Rendre grâce pour tout ce temps de service dans ce beau, dans ce grand diocèse de Toulouse. Et vous savez que auparavant j'ai été pendant 4 ans et demi évêque de Mende, qui est le plus petit diocèse de France, et je me suis trouvé ensuite nommé, propulsé par Benoît XVI de Mende à la 4e ville de France.
C'est pas la même dimension,
hein. C'était vraiment un bond important. Et ce qui m'a fait quand même 20 ans d'épiscopat. Et j'étais heureux de célébrer un motif d'action de grâce, c'était ces 20 années d'épiscopat au service de l'église qui est à Mende et de l'église qui est à Toulouse et de la province de Toulouse, dont Lourdes, etc. Donc rendre grâce pour toutes ces années de service et qui n'étaient pas toujours faciles ni évidentes, mais malgré tout qui étaient pleines de rencontres, de richesses. Et une des choses que j'ai dites dans cette messe d'action de grâce, rendre grâce, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait ma joie d'évêque, oui. Et c'est ma joie d'évêque comme me demander des confirmants au printemps dernier, et je n'ai pas hésité à répondre à cette question en disant les relations. La relation à Dieu, dans la prière, et notamment quotidiennement et autant possible dans une prière continuelle, et les relations aux autres, les relations, les liens avec les uns et les autres. Encore hier soir, par exemple, j'avais été invité par nos frères roumains orthodoxes, à qui on a cédé une église du côté de l'Onaguet, et l'archevêque pour l'Europe était là, et on a eu, ils m'ont fait un petit concert, et il connaît mon surnom de Kerimel, cet archevêque aussi déjà, parce qu'il y a aussi une paroisse à Grenoble, etc. Les relations, hier soir encore, c'était un bon moment de relation joyeuse et fraternelle, vraiment. Et ça, c'est la relation, c'est ce qui m'a fait vivre et ce pourquoi je rends grâce.
Alors, vous rendez grâce pour ces relations, pour ces années de service. Vous disiez pourtant que la charge avait été difficile. Et c'est vrai que dans les colonnes de Famille Chrétienne, en décembre dernier, vous avez exprimé que c'était effectivement difficile d'être évêque. Est-ce que pendant ces 20 ans, vous avez senti que l'exercice de cette charge avait évolué ? Est-ce que vous avez senti des changements et peut-être un poids plus lourd ?
À la fois un poids plus lourd, notamment toutes ces questions concernant la pédocriminalité, ça a quand même été un poids. Je suis arrivé dans la conférence épiscopale, la première assemblée en novembre 2001, on traitait déjà cette question-là. Alors, ensuite, ça a continué, mais c'était à partir de 2016, surtout, avec la parole libérée, que les choses sont venues vraiment de manière plus forte. Mais c'est quand même très lourd. Vraiment, ça a été dans l'élément de la vie quotidienne, de la vie, et c'était quand même un poids. Et un point, oui, des questions difficiles, toujours des questions de personnes qui peuvent intervenir aussi. Mais malgré tout, à travers ces difficultés-là aussi, il y a la joie des rencontres, la joie du soutien des uns et des autres. On n'est pas seul, on est avec une équipe, le conseil épiscopal, le vicaire général. Et donc ça, c'est extrêmement précieux, et des gens de tous côtés. Et j'ai bien vu dans cette célébration du 9 janvier, combien j'étais très touché, malgré la grande pluie qu'il y avait, malgré la Covid qui régnait avec l'Omicron, etc., combien des visages que je retrouvais, c'était ému, joyeux et serein à la fois de voir tout ce monde.
Oui, la cathédrale Saint-Étienne était pleine.
Hein. Vraiment.
Alors, Monseigneur Robert Le Gall, je voulais vous faire réagir aujourd'hui parce que nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et vous parliez justement de votre rencontre hier soir à l'église orthodoxe. Vous avez eu pendant toutes vos années d'épiscopat des relations constantes avec les responsables des autres religions. Quel est le message que vous souhaiteriez laisser aux Toulousains en général à propos de l'unité?
ma devise, vous savez, oui. ma devise de Père Abbé, d'évêque à Mende et d'évêque ici, c'est « De unitate trinitatis ». Donc, c'est une formule qui est issue d'une quasi-définition de l'Église que donne Saint Cyprien, l'évêque de Carthage. Saint Cyprien, c'est le quartier Saint Cyprien ici,
oui,
d'ailleurs, n'est-ce pas,
mm-hmm.
Et donc, qui définit l'Église, et c'est repris par le Concile Vatican II, Lumen Gentium, l'Église est le peuple unifié, donc qui tire son unité, de l'unité même du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, c'est ma devise. Et mon orientation de fond pour ce diocèse, ça a été, en reprenant la formule même de Jésus dans sa grande prière avant sa passion en Saint Jean, au chapitre 17e, et donc qu'il soit un pour que le monde croie.
Vous l'avez beaucoup dit pendant vos années, vraiment,
et c'est de fond, et c'est la prière de Jésus, et c'est dans le synode, dans la démarche synodale qu'on a maintenant, dans la mission, qui est quelque chose qui m'a beaucoup habité aussi, avec le congrès mission qu'on a eu encore au mois d'octobre dernier, etc. Donc, qu'il soit un pour que le monde croit, la condition, justement, de la mission, c'est l'unité. Mais pas unité lourde, rigide, uniforme, mais une unité différenciée. Et elle me permet de me rappeler aussi que c'est la devise même de l'Europe, dans la multitude, dans la variété de l'unité. Vraiment, c'est la devise de l'Europe. Et moi, c'est ce qui m'a fait travailler. Et ma joie, c'est de voir que dans des moments comme ceux qu'on a vécu au Neuf, ça se sentait, c'était palpable. Et comme disait encore le général ces jours derniers, on sent dans cet interrègne, si je puis dire, où nous sommes, une sorte, il m'a parlé d'armistice, je veux dire un peu,
c'est fort comme mot, de paix,
et vraiment, il y a des moments difficiles où on voit que les différences se muent en opposition ou en divergence, les différences se muent en divergence, c'est tellement humain.
Oui,
cela. Mais d'autres moments aussi où on voit se réunir en faisceau, s'unifier, s'harmoniser un petit peu les uns et les autres, des intentions. Alors, la vie, c'est ça. Ben, c'est très vrai dans les familles, c'est vrai dans les communautés, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans la radio.
Vous avez été témoin, vous, pendant ces 15 années à Toulouse, de justement ces petites ramifications d'unité, non seulement entre les religions, mais aussi au sein de l'Église.
Véritablement, entre les régions, et même ici, vous savez, après les assassinats de Mohamed Merah du 12 mars 2012, le 19 mars 2012, eh bien, nous avons mis, encore, on s'est retrouvés l'autre jour, et j'étais très touché de voir à la messe qu'il y avait un des responsables musulmans, et qui était présent. Il y avait plusieurs pasteurs qui étaient là, et Nicole Yardeni, que je connais très bien, n'a pas pu être là parce qu'elle était en famille, mais elle est donc vraiment, l'unité, et je faisais partie jusqu'à maintenant, du conseil dans la conférence épiscopale pour l'unité des chrétiens. Donc j'ai beaucoup travaillé dans ce sens. J'avais, quand j'étais père abbé, fait un groupe de Chevetonne qui réunissait des deux poumons, comme le souhaitait le pape Jean-Paul II, entre le l'Orient et l'Occident. On est allé à Moscou, on est allé en Biélorussie. Et donc ça m'a tenu. C'est une des trames de ma vie, certainement, cette unité, comme aussi le dialogue que j'ai eu avec l'ama tibétain. Et donc, qui était un livre qui a été très répandu. Donc, c'est l'unité dans la diversité, c'est vraiment quelque chose qui m'habite.
Et qui va continuer de vous habiter,
alors. Je pense, davantage dans la prière, dans des relations qui continueront, bien sûr, aussi.
Vous avez évoqué, Monseigneur, la mission.
Oui.
Vous avez aussi exhorté les fidèles du diocèse de Toulouse à devenir des disciples missionnaires. Quelle en est l'urgence ?
Ben vous savez que c'est une des expressions qui est liée au pape François, parce que dès sa première lettre apostolique, ou cette exhortation apostolique sur la joie de l'évangile, c'est un des premiers mots qu'il emploie au début de cette exhortation. Et des disciples missionnaires, disciples, parce que comment voulez-vous de missionnaires si vous n'écoutez pas d'abord ? Il faut d'abord des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui a besoin d'apprendre, qui sait qu'il ne sait pas tout, qui attend une parole. Et avant de diffuser la parole, il faut d'abord la recevoir. Donc, disciple, missionnaire, c'est. Et le pape met un tiret. et je fais que nous faisons comme lui, et nous continuons dans ce sens-là. Et le synode, enfin la démarche synodale à laquelle nous sommes invités maintenant, les équipes d'ailleurs se multiplient plus que ça met un peu de mal à partir, mais actuellement beaucoup d'équipes ou de groupes se réunissent pour partager la parole, prier à partir de la parole et voir ce qu'il est possible de faire pour diffuser la parole.
Donc c'est dans le cadre du synode pour la synodalité, pour réfléchir en fait sur l'Église et la façon dont elle a d'être missionnaire.
Et chacun donc est invité à dire son avis, à proposer ses réflexions à ce sujet. Et je suis content de voir comment ça se diffuse maintenant. Et heureux de passer le relais donc à Monseigneur Guy de Guérimel, qui va prendre cette charge à ma suite.
Et oui, à votre tour. Vous avez invité les fidèles du diocèse de Toulouse à tourner leur regard vers les pauvres. C'est aussi une exhortation que vous leur avez lancée.
Oui.
Et vous-même, à plusieurs reprises, vous avez été présent auprès d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont à nous enseigner ?
Ils ont une parole qui est propre, une expérience qui est propre, un langage qui, quelquefois, décoiffe. Des coiffes ou peut gêner même parfois, mais ils ont une parole de vérité et qui est liée d'ailleurs à ce que l'Évangile nous dit. Enfin, une des premières choses que des signes de l'arrivée du Messie dans la bouche de Jésus lui-même, c'est aller dire es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre, dit Jean-Baptiste qui avait un moment de doute. Et il a répondu allez dire les boiteux marchent, les aveugles voient, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc les pauvres ont besoin d'une bonne nouvelle. Et qui n'est pas pauvre d'un côté ou de l'autre, et qui n'est pas en manque. Si on n'est pas en manque, c'est dommage qu'on ne soit pas conscience de manque. C'est comme le disciple, si quelqu'un qui croit tout savoir, c'est vraiment c'est une grosse erreur, et une grave erreur même, parce que d'un côté, donc les pauvres sont dans le besoin, dans l'attente. Et nous devons être comme eux pour non seulement être attentifs aux besoins qu'ils ont pour essayer d'y pourvoir, si possible, mais surtout faire d'eux, avec nous, avec leur parole propre, leur expérience propre, des témoins d'évangile. Et pour reprendre la formule vraiment d'un tout un très beau livre qui est paru après le rapport Sauvé, de victimes à témoins. De même, les pauvres sont aussi victimes de la société, victimes de tas de contraintes, mais qui deviennent témoins avec nous, et qu'ensemble nous soyons des témoins, des témoins d'évangile dans la mission.
Alors, Monseigneur, vous êtes de racine bretonne, puis vous êtes quand même particulièrement adapté à la culture du Sud-Ouest. Hein. Vous êtes amateur inconditionnel de l'Opéra de Toulouse.
C'est exact. et de l'Allograin aussi.
Et de l'Allograin, nageur invétéré des dauphins du Touet.
C'est exact. J'y étais encore récemment.
Et puis, une proximité avec les deux rappeurs Big Flo et Oli. Voilà, ça, c'est un petit clin d'œil pour les fans de rap.
J'ai déjeuné avec Oli il n'y a pas longtemps.
Ah oui. Et puis, plus sérieusement, vous avez a eu un attachement très particulier au sein du diocèse. Vous avez soutenu l'Institut catholique, vous avez monté une paroisse étudiante qui était la première en fait
c'est
en France. Hein.
C'est exact.
Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché sur cette terre d'Occitanie quand vous regardez ces 15 dernières années en arrière?
On m'a dit quelquefois que les Toulousains quand on arrive chez eux, ouvrent largement les bras mais qu'ils ne les referment jamais.
Ah, c'est beau comme expression.
c'est beau, c'est pas, oui. C'est, mais il ne referme jamais, c'est-à-dire qu'il vous embrasse pas, quoi. Mais en fait, moi, je trouve que les Toulousains sont chaleureux, pas seulement que le climat ici, sont chaleureux et les relations sont faciles. Et alors, il faut bien sûr les cultiver, il faut les approfondir. Quand j'étais à Mende, où les Lozériens sont davantage des montagnards, sont réservés. Et donc, mais quand on les connaît, ils sont fidèles, etc. aussi. Et je dois dire que j'ai tissé ici, dans ce diocèse, beaucoup de belles relations et simples relations avec des personnes, avec des familles. Des familles et ce qui fait ma joie et qui continue à faire ma joie.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Monseigneur, justement? Est-ce que vous allez continuer de tisser ces relations avec ces Toulousains ou est-ce que vous allez quitter un petit peu notre région?
Je souhaite retrouver ma vie monastique.
Oui.
Donc, je l'ai dit souvent, je vais me retirer dans l'abbaye bénédictine de l'île de Wight en Angleterre, dans face à Portsmouth et Southampton, où que je connais depuis 58 ans. et mais où je serai pour l'essentiel de mon temps, c'est ce que je souhaite au moins. Mais en même temps, je garde un pied-à-terre à Toulouse, dans ce que j'ai construit dans la filière gérontologique au Christ-Roi, à la résidence Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est la patronne de mon abbaye à Carconan.
Ah, oui.
Et donc, ça se trouve, Sainte-Anne, c'est pas moi qui choisis ce nom-là.
Et c'est providentiel, alors.
J'ai un petit appartement, un T2, que j'aménage ces jours-ci, et où je vais résider dans quelques jours. Et donc, et ce sera ma résidence. Mais je passerai de temps en temps, de 2-3 semaines, tous les 3 ou 4 mois, mais je serai pour l'essentiel de mon temps là-bas, en Angleterre.
Voilà, merci beaucoup, Monseigneur Robert Le Gall. Bon
Isabelle.
Vent,
merci
bonne
beaucoup,
mer, puisque vous serez face à la mer aussi.
Et nous gardons, je continuerai à intervenir à la radio par les chroniques que je
Alors à bientôt.
Avec joie. Merci encore.
Merci à vous.